Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business numéro 16 avec Stéphane et Patrice sur RLP 102.3, radio libre en Périgord depuis Coulommiers-Chamiers. Patrice, bonjour, ça va ?
Bonjour à vous tous.
Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons Romain Rousseau, agent général exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine. Nous allons parler protection des dirigeants, nous allons parler... assurance, nous allons parler de plein de choses, ne bougez pas, c'est juste après ça.
Les actualités.
Actualité. La France, pays d'entrepreneurs, point d'interrogation. La protection sociale des professions libérales est distincte de celle du régime des salariés, à savoir une assurance maladie et maternité obligatoire, ainsi qu'un régime d'assurance vieillesse obligatoire, si j'ai bien compris d'ailleurs, en France, malgré Schengen. Peut-être qu'on va en parler aussi d'ailleurs. Mais accompagner dans la durée les chefs d'entreprise, les professions libérales, les cadres, pour leur permettre de faire face aux aléas de la vie, de protéger leur famille, de préparer leur retraite, d'optimiser leur épargne, leur transmission, c'est le travail de Romain Rousseau, agent général exclusif AXA. Monsieur Rousseau, bonjour, vous allez bien ?
Bonjour à tous, merci, bon. Ça va très bien.
La présentation vous convient, c'est bon, tout
ça ? Oui, c'est ça, bien résumé.
Eh bien écoutez, je vous laisse en introduction avec Patrice, et après je reviens juste après avec mes questions.
L'invité de la semaine.
Romain, bonjour. Romain Rousseau, vous êtes agent AXA. Alors, un agent pas comme les autres, hein, un agent un peu spécial, un 007 de chez AXA. Vous êtes spécialisé chef d'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire déjà d'être spécialisé chef d'entreprise ?
Oui, mais bonjour Patrice. Mais oui, effectivement, moi je suis agent général AXA, mais spécialisé en protection financière des personnes, notamment des chefs d'entreprise. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner, protéger leurs revenus en cas d'événements plus ou moins inattendus, notamment tout ce qui va être aspect prévoyance. Également la santé, ça c'est tout ce qui est mon cœur de métier. Et après, ça va être les protéger sur le long terme, la retraite et la partie patrimoniale.
Oui, alors ce qu'il faut peut-être préciser à nos auditeurs, c'est qu'un chef d'entreprise, bah, c'est pas un monsieur comme tout le monde, parce que 99%, on va dire, des Français sont salariés ou fonctionnaires. Chef d'entreprise, c'est à part. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, il ne subit pas la retraite, il ne subit pas la sécurité sociale, il subit pas grand-chose parce qu'il a rien. Il n'a rien, enfin pas grand-chose en tout cas, et c'est à lui de construire, c'est à lui de fabriquer son revenu, hein. Il n'a pas de salaire, donc c'est à lui de fabriquer ses rentrées d'argent, sa retraite, sa couverture, ses assurances. Il a tout à faire, il a fait ce choix, il l'assume, mais en tout cas, ça mérite qu'on en discute parce que tous les chefs d'entreprise quand même n'ont pas conscience de ça, et c'est un travail quand même qui est important à faire avec des agents spéciaux comme vous, AXA, le 007 AXA d'Ordeuil. Romain, expliquez-nous un peu plus.
Oui, c'est ça, effectivement. Donc chaque chef d'entreprise, par rapport à son statut, du coup, va cotiser à certains régimes spécifiques et avoir une protection particulière qui est totalement différente des salariés. Et en général, c'est beaucoup plus faible par rapport aux revenus qu'ils peuvent dégager par rapport à l'activité. Donc là, nous, on va être... Moi, c'est mon rôle, du coup, c'est de faire un audit complet de la situation de chef d'entreprise. Donc voir ses revenus, voir sa situation aussi personnelle, l'impact qu'ont ses revenus par rapport à sa fiscalité personnelle, s'il est en couple, s'il a des enfants ou autre, ou célibataire. Voir également la masse salariale qui est utilisée dans une entreprise au niveau des charges pour pouvoir essayer de trouver l'optimum entre les revenus, ce qu'il va pouvoir prendre au sein de son entreprise, quel va être l'impact sur sa fiscalité personnelle, et aussi quel va être l'impact sur ses droits sociaux qu'il va pouvoir, du coup, cotiser au niveau du régime obligatoire.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'un chef d'entreprise, quand on parle de revenus d'un chef d'entreprise, il y a différentes sources de revenus. Il peut être, le chef d'entreprise peut s'octroyer un salaire hein, en tant que salarié, mais il peut aussi, bien évidemment, se rémunérer sur les dividendes de l'entreprise, c'est-à-dire... de façon raccourcie un peu sur les bénéfices de l'entreprise. C'est pas tout à fait ça, mais on va essayer de synthétiser au plus simple. Donc il y a des choix à faire, et ces choix-là, ma foi, ont beaucoup de conséquences sur plein de choses, sur bien évidemment sa fiscalité, bien évidemment ses différents avantages, sa couverture sociale, mais aussi tout ce qui est vrai durant un exercice fiscal est à remettre en cause l'année d'après. Expliquez-nous un peu, parce que ça, c'est... Vous êtes en train de me dire tout à l'heure en off que faudrait qu'on fasse une situation tous les ans pour les chefs d'entreprise.
C'est exactement ça. Voilà. En fait, nous, quand on fait vraiment une photo à l'instant T de la situation des chefs d'entreprise. Et on va mettre en place des solutions, s'il y a besoin d'en mettre, par rapport à cette photo à cet instant T. Demain, la photo va être différente. Soit bien, sa situation personnelle a changé, des enfants qui sont partis, donc il y a une fiscalité qui va être différente. Les revenus d'entreprise vont être avec un gros chiffre d'affaires qui s'est dégagé, donc une rémunération supérieure. Et du coup, ça va être à travailler avec le chef d'entreprise, tous les ans se revoir pour pouvoir arriver à jongler entre la rémunération qui peut se dégager, qui peut se verser, les dividendes qu'il peut avoir, et trouver vraiment la situation optimale sur l'instant T. Donc, c'est-à-dire tous les ans, à chaque fin d'année, on peut pouvoir réajuster tout cet aspect-là.
Alors, c'est ce qui est très surprenant hein, dans votre propos, parce que vous m'avez dit ça tout à l'heure. Sur le coup, j'ai eu un temps d'arrêt quand même, parce que vous vous dites, tout du moins, on vous appelle les agents spéciaux, mais en réalité, il n'y a que vous qui puissiez dire, attendez, quand on est chef d'entreprise, il faut faire un bilan annuel, parce que en fonction de l'évolution des revenus, enfin du bénéfice des sociétés, de la fiscalité française et de la vie privée du chef d'entreprise, ce qui était vrai l'an dernier, bah, ne serait peut-être plus si rentable l'année suivante, et il faut à ce moment-là écrire des stratégies de couverture, de rémunération. Et ça, Dieu sait si je connais un bon nombre de chefs d'entreprise, je pense qu'en grande majorité, personne n'est conscient de ça.
C'est exactement ça. On voit les experts comptables, on les voit une fois par an pour pouvoir redresser le bilan par rapport à l'entreprise. Mais moi, c'est un peu la même chose. Du coup, je suis expert sur la partie sociale. Et du coup, l'idée, c'est de revoir minimum une fois par an mes clients pour pouvoir réajuster les garanties, que ce soit la hausse ou la baisse. On n'est pas là pour, moi je ne suis pas là à l'assureur pour vendre encore plus de contrats. S'il y a besoin de faire évoluer les garanties à la baisse, on le fait parce qu'on va vraiment s'adapter et faire un travail sur mesure par rapport à la situation des chefs d'entreprise à l'instant T. Encore une fois, je répète.
Oui, vous n'êtes pas en chasse de nouveaux contrats, c'est pas votre... Alors, j'ai pas dit que vous n'en voulez pas, un nouveau contrat, on est tous dans le commerce, bon. Mais je veux dire que votre métier n'est pas de chasser que du nouveau contrat, votre métier c'est vraiment d'adapter vos contrats à la situation économique du chef d'entreprise et de son entreprise par activité.
C'est du sur-mesure, c'est un peu le travail de dentelle, effectivement. Donc, voilà,
vous devriez l'écrire, le crier sur tous les toits, parce que moi, je me souviens très bien, quand j'étais chef d'entreprise, les contrats d'assurance que j'ai pu signer, je citerai pas, bien évidemment, la compagnie, mais une fois qu'on les a signés, après, on voit plus personne, quoi. Par contre, on continue à payer.
C'est ça, voilà. Les cotisations, elles courent, mais non, voilà, c'est nous, enfin, moi, en tant qu'agent général, c'est ça, ça va être suivre mes clients à chaque étape de leur vie. Donc, on démarre.
La différence peut être significative, quand même, très honnêtement, entre une année sur l'autre, des revenus, enfin, tout du moins, des profits d'une entreprise qui varient énormément. Bon, ça c'est la vie des entreprises. Vis-à-vis de la couverture du chef d'entreprise, sa retraite, par exemple, vous m'aviez parlé de retraite. On oublie souvent que la retraite d'un chef d'entreprise, essentiellement, c'est lui qui se la fabrique, hein.
Exactement.
On est bien d'accord. C'est quoi la différence d'ailleurs de la retraite entre la retraite d'un chef d'entreprise et d'un salarié ?
Ben, ça dépend du statut du chef d'entreprise, s'il cotise au SSI ou les professions libérales en fonction des caisses de régime. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entrepreneur, il va devoir en gros avoir à peu près 50% maximum de sa retraite par rapport à ses derniers revenus d'activité. Et encore, ça c'est la moyenne, sinon on est souvent autour des un tiers... entre un tiers et 50%. Donc, il est nécessaire qu'il puisse compléter sa retraite avec des solutions qui existent. Donc, nous, on met en place des solutions, ce qu'on appelle des PER, donc des contrats de retraite sous la fiscalité Madelin. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va prendre en charge les cotisations, qu'on peut adapter justement par rapport à la situation de l'entreprise. Donc, ce n'est pas une obligation de versement qui se fait de manière régulière. On peut la faire moduler à la hausse ou à la baisse en fonction de comment l'année s'est passée.
Vous êtes en train de me dire que dans le monde, enfin dans l'entreprise, le chef d'entreprise, sa retraite, c'est la société, c'est
exactement.
Sa société qui paye sa retraite.
Exactement, c'est une charge pour l'entreprise. Il peut en faire des versements complémentaires avec ses revenus personnels. De son compte personnel, mais sinon ça va être sur la partie entreprise.
C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait du bénéfice, ce qui est bon, le but, bien évidemment, de toute entreprise, le chef d'entreprise a tout intérêt à faire payer à l'entreprise sa retraite. Exactement. Pour en avoir une confortable. Quoi.
Tout à fait. C'est l'occasion pour nous de saluer nos amis de la CIPAV. Bonjour, si vous nous écoutez. Voilà.
C'est ça, oui, effectivement, la CIPAV aussi, enfin, un régime qu'ils peuvent proposer, mais qui, voilà, avec des cotisations qui sont... des garanties qui sont assez faites par rapport aux revenus qu'il peut avoir.
Les gens l'oublient, mais en fait, travailler comme indépendant ou se lancer à son compte, ça veut dire qu'on n'a plus d'assurance chômage, ça veut dire qu'on est moins couvert au niveau de la sécurité sociale, et ça veut dire effectivement que ces vieux jours, eh ben, peut-être qu'on se les prépare un petit peu soi-même. Alors, il y a la liberté, mais il y a un petit peu tout ce qui va avec. Dans cette régulation française et autres, vous, alors c'est une question qui m'intéresse, moi. Hein, quel est le meilleur statut actuellement pour les indépendants, les PME, les TPE? C'est la SARL, c'est le URL, c'est la SASU. Le meilleur statut, c'est lequel?
Alors, il n'y a pas de statut meilleur parmi d'autres. Chaque statut est vraiment spécifique par rapport aux souhaits que l'entrepreneur veut avoir sur son activité, son développement ou autre. Moi, je travaille beaucoup avec des TNS, donc travailleurs non salariés, qui sont sous statut EIRL, SARL ou entrepreneur individuel.
Ou donc sur leur nom propre, si jamais ils se cassent la figure, on leur prend leur canapé. Voilà,
oui, mais bon, maintenant, il y a le travailleur indépendant, il n'y a pas une garantie qui sont derrière. Le SARL,
donc il y a des contrats, justement, pour pallier la responsabilité individuelle, qui fait qu'en cas, le marché s'écroule, vous ne mettez pas votre maison, votre télévision en jeu, vous avez une protection.
Oui, ça, c'est la protection du statut. Après, voilà, moi, c'est pas... Moi, je ne vais pas rentrer dans cet aspect-là. Moi, je vais voir, en fait, quelle est l'incidence du statut par rapport à ce qu'il cotise, le chef d'entreprise, ce qu'il a comme garantie derrière, et du coup, comment on va pouvoir optimiser tout ceci.
Vous n'êtes pas comptable, vous êtes travaillé, vous, sur la rémunération du chef d'entreprise, faites en sorte qu'il soit protégé possible par rapport à ses revenus, par rapport à ce qu'il gagne. Vous allez faire en sorte qu'il soit protégé le mieux possible et faire aussi de la gestion de patrimoine, c'est
exactement,
ça
Exactement, voilà. D'accord. L'idée, c'est que si on va travailler, si on fait une stratégie sur du très long terme, gestion de patrimoine, placement, optimisation de patrimoine, retraite et autres, il va falloir, du coup, assurer des revenus fixes pendant toute la vie de la carrière pour qu'avoir cette stratégie puisse être assurée sur le long terme.
Bien sûr.
La prévoyance rentre dans ce niveau-là. S'il arrive un pépin, un événement, on va compléter les revenus pour pouvoir les maintenir et assurer ce qu'on met en place pour le futur.
Oui, parce qu'il faut, rappeler alors, à nos auditeurs, parce qu'on a des auditeurs qui sont beaucoup de TPE, beaucoup de chefs d'entreprise en TPE, artisanat. Ils ne sont pas tous au fait de tout ce qu'on est en train d'évoquer. Ils sont plus au volant de leur entreprise, au guidon de leur métier.
Il y en a qui l'ont appris à la dure aussi.
Mais aussi, voilà, le problème, c'est qu'on apprend aussi beaucoup des pièges, entre guillemets, ou des faux pas que l'on peut faire dans la vie. Mais si on pouvait éviter et apprendre sans se faire mal, ça serait quand même bien aussi. Un chef d'entreprise, on s'entend bien, il se casse la figure, enfin, il peut plus travailler parce qu'il a eu un pépin, une hospitalisation, enfin bon, un pépin de la vie comme tout le monde
peut connaître. Il s'est fait renverser par un andouille sur la route, qui n'était pas assuré.
Comment ça se passe, là, un chef d'entreprise, il n'a pas grand-chose, s'il n'a pas de contrat, s'il n'a pas souscrit de contrat. Ça, c'est la prévoyance.
C'est ça, c'est la prévoyance qui va permettre de maintenir les revenus en cas d'incapacité, en cas d'arrêt de travail, liés à différents types d'événements, que ce soit hospitalisation, accident ou maladie.
D'accord.
Elle va aussi être là pour protéger en cas d'invalidité. Donc là, c'est un statut d'incapacité qui est sur du long terme. Donc, je prends l'exemple souvent de François Cluzet dans Intouchable. Donc là, validité totale, on est en fauteuil roulant et on ne peut plus exercer d'activité économique. Donc il faut quand même avoir des revenus pour pouvoir subsister à ses besoins et voilà, avoir une personne, un homme qui vient aussi aider. Donc, et après, il y a la partie décès aussi, qui est couverte par la prévoyance. C'est ces trois gros blocs. Chaque régime, que ce soit si on est artisan ou commerçant, on cotise au SSI. Si on est en profession libérale, on va cotiser à la CIPAV, à différentes caisses, avocats, notaires. Enfin, chacun a des caisses vraiment spécifiques où on va avoir certaines garanties. Les artisans, ils sont couverts dès le troisième jour pendant 12 mois. À hauteur de maximum, ce sera 1 600 euros par mois. Même s'ils cotisent 3 000, 4 000 euros, ils vont avoir maximum ce montant-là.
D'accord.
Une profession libérale, ils sont couverts les 3 premiers mois. Et encore, c'est une réforme qui existe depuis le Covid, sinon ils n'avaient rien. Et en fonction des caisses, ils n'auront rien. À partir du troisième mois, certaines vont aussi couvrir, mais la CIPAV, typiquement, elle ne couvre pas l'arrêt de travail. Elle va couvrir l'invalidité et les décès.
La profession libérale, il ne faut pas qu'il ait de pépins, quoi.
Exactement.
Ou alors, il faut qu'il ait constitué une grosse trésorerie.
Pour pouvoir permettre de pouvoir pallier à ses besoins.
Ça, c'est important de le répéter, Romain, parce que pour vous, c'est une évidence, c'est votre métier, et puis c'est votre raison d'être aussi, quelque part, par rapport à la prestation que vous apportez aux chefs d'entreprise, mais tous nos auditeurs n'en sont pas conscients, et dans nos auditeurs, même les chefs d'entreprise de TPE et artisans ne sont pas tous au fait de cela. Donc, il faut quand même... Même le répéter, tant mieux, mais ça évite d'apprendre en se faisant mal.
Ouais. De toute façon, les chiffres, je crois qu'au niveau des chefs d'entreprise, en Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'il y a à peine la moitié, voire 60% qui n'ont pas de prévoyance. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas couverts. Ils comptent, voilà, dire maintenant je constitue à côté, j'ai de l'immobilier, j'aurai des loyers qui vont être versés, ça me permettra de pallier, ou voilà, ce que je cotise, je prends, c'est ma trésorerie personnelle.
J'ai une caisse en métal dans mon jardin avec ce qu'il faut dedans, et puis.
Bon. Typiquement.
Alors ça, c'est bien, hein. C'est une gestion où chacun est libre de gérer son argent comme il le souhaite, mais souvent bah, c'est une volonté, mais qu'on ne fait pas toujours. Parce que de fait de dire « non, mais moi je mets de l'argent sur un compte le jour où il m'arrivera un pépin », oui, donc on met de l'argent sur un compte, mais on le bouffe en faisant autre chose, cet argent, il est rarement laissé tout le temps, justement pour au cas où j'en aurais besoin. Donc ça, c'est aussi à réfléchir, hein. C'est facile de mettre de l'argent de côté quand on en a, bien évidemment, mais de le laisser pour, dans l'hypothèse où on en aura besoin, peut-être jamais, mais on peut en avoir besoin, de le laisser, c'est une autre paire de manches. Et là, les contrats d'assurance ont tout à fait leur légitimité. Au-delà de la prévoyance, un chef d'entreprise, il a besoin de quoi ? D'un contrat santé, on s'entend bien, parce qu'il a une sécu, mais elle est moins bien que celle des salariés.
En fait, il y a le triptyque de la protection sociale. Ça va être une protection qui va être personnelle, la garantie accident de la vie. Vous parlez tout à l'heure d'une personne qui a un accident, bon, pas motorisé, mais vous tombez dans les escaliers, vous êtes en arrêt de travail. Voilà, c'est une couverture qui est là-dessus. C'est une question qui ne sont pas accessibles, ça va permettre vraiment de couvrir cet aspect-là. Ensuite, il y a la prévoyance pour maintenir les revenus et la santé, pour faire face à des frais de dépenses, hospitalisation, chirurgie ou autre. Donc là, c'est ce qu'on appelle typiquement la mutuelle, où l'entreprise, du coup, n'a droit à rien, parce que c'est souvent l'employeur qui propose à ses salariés, c'est une obligation, mais pour lui, s'il n'est pas assimilé salarié, s'il est travailleur indépendant ou travailleur non salarié, il n'a aucune garantie en termes de protection de santé.
Je vous répète, hein, c'est hyper important, parce qu'un chef d'entreprise, il a l'obligation d'avoir une mutuelle entreprise pour ses salariés, mais ça ne s'applique pas à lui s'il n'est pas salarié.
Non.
S'il est travailleur non salarié, il n'est pas couvert par la mutuelle de ses salariés.
Il est indépendant et il prend la mutuelle qu'il veut, aux garanties qu'il veut.
Tu sais, en Asie, quand j'avais ma société, je n'avais pas droit à la protection sociale parce qu'ils estimaient que si j'étais CIO de ma société, j'étais assez costaud pour me débrouiller tout seul.
Oui, j'entends. J'entends bien. Mais ça, on vient de le répéter. J'espère que nos auditeurs l'ont bien entendu, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se sont pas posé la question, et c'est passé.
Et la sagesse et l'expérience nous apprend que...
Et c'est passé à la trappe, hein, parce que l'air de rien, quand on a une grippe, c'est pas bien grave, mais quand on met un pied à l'hôpital, même pour une opération
bénigne... Et puis quand on a 25 ans, on conquiert le monde, et quand on commence à avoir 55 ou 60, attention, il peut se passer des choses.
Et à Francheville,
il faut être sage.
C'est ça, ouais, à Francheville ou à l'hôpital de Périgueux, quand vous ressortez de l'hôpital et que quelques jours plus tard, vous recevez la facture à la maison, et là, vous vous dites...
Elle est un peu lourde.
Mais c'est curieux, pourquoi il me demande autant d'argent ?
Bon, on est à 700 ou 800 balles par jour, je crois.
Oui,
il
n'y
a
énorme,
pas de couverture, hein, il faut le savoir.
Ce qu'il faut préciser, c'est pareil, une couverture santé, ça s'adapte aux besoins. Mm-hmm. Une personne qui a 25 ans, qui n'a pas de frais dentaires, on ne va pas lui couvrir des frais dentaires à 400 ou 200% ou autre. Donc c'est des contrats qui sont également évolutifs.
Donc là, on a parlé de la protection, la prévoyance du chef d'entreprise par rapport à la perte d'activité, donc la perte de revenus. On a parlé de la santé, de sa santé, qui n'a rien à voir avec la santé des salariés. Maintenant, la retraite, lui, c'est pareil. La retraite, il n'est pas salarié. Enfin, en tout cas, s'il n'est pas salarié... Il va cotiser à la retraite, mais pas grand-chose, enfin en tout cas pas suffisamment pour avoir une retraite normale, j'ai envie de dire convenable. Je n'ai pas dit une retraite luxueuse, hein, j'ai dit une retraite normale, on va dire. Donc là aussi, c'est à lui de construire et d'avoir des plans de retraite bien particuliers chez l'entreprise.
C'est ça, exactement. Donc en fait, on va avoir la retraite, ça se décline en trois niveaux. Il y a la retraite de base et complémentaire qui est liée au régime, ce qui est offert, c'est la subsidie sur les revenus qui sont déclarés. donc que ce soit tout cumulé, que ce soit salarié, non salarié, enfin par rapport à la carrière. Et après, la retraite complémentaire et surcomplémentaire, et là, c'est des retraites par capitalisation qui sont mises en place par...
Romain, c'est tellement vaste comme sujet, et le temps passe vite. Il y a aussi, bien évidemment, le patrimoine. Vous faites du patrimoine, vous gérez, vous pouvez conseiller, en tout cas, en termes de patrimoine, les chefs d'entreprise, de là où ils doivent placer leur argent. C'est bien ça?
C'est ça. Donc moi, je vais faire également des audits patrimoniaux et audits successoraux. Donc savoir, par rapport au patrimoine qui a été constitué pendant toute la vie d'un chef d'entreprise, ou même de notre personne, quel va être l'impact en cas de succession. Donc ça s'anticipe, est-ce que les héritiers vont devoir payer des droits de succession, à quel niveau, à quel montant?
Alors là,
est-ce que ça va être protégé, de quelle manière?
Là, je vous attendais, Romain, et puis alors là, on va enfoncer le pieu encore un peu plus profondément. Là, on passe à un domaine où rares sont les chefs d'entreprise qui se posent la question, hormis quand ils sentent la retraite arriver.
La transmission.
La transmission de leur entreprise. Oui. Alors, allô, les chefs d'entreprise, vous qui avez marné, qui avez bossé toute votre carrière, pensez à vos gamins, parce que ça peut être un sacré cadeau empoisonné. Vous avez une entreprise et vous vous dites, bah, ils vont être contents, les gamins. Ils vont
D'ailleurs, oui, il faut attendre ou le faire de son vivant?
Alors, ça dépend après du souhait de chacun. Souvent, tout ce qui est partie successorale, ça peut s'anticiper. L'État autorise, en fait, si on fait des démembrements. Alors, par rapport à des sociétés, c'est un peu compliqué. On peut anticiper les faire rentrer les enfants dans la société qui prennent des parts et on fait sur des achats de holding ou autre. Mais par contre, tout ce qui va être immobilier et patrimoine personnel, ça peut. Voilà, l'idée, c'est souvent anticiper, soit créer des sociétés, soit liquider, mettre sur des contrats financiers parce que c'est hors succession. Parce que si on a des patrimoines qui s'élèvent à 700, 800 000, 900 000, 1 million d'euros même, ça va commencer à chiffrer si les héritiers vont devoir récupérer ce patrimoine. Donc ça veut dire soit se séparer de partie patrimoine, c'est que l'État vend du coup de l'immobilier pour pouvoir payer les droits de succession. Alors déjà, il y a des valeurs un peu d'affection qui peuvent être un peu compliquées au niveau des héritiers de vouloir céder une partie de la maison familiale.
Surtout si c'est la maison d'enfance, oui.
C'est ça, oui, exactement.
On travaille pour nos enfants, donc si jamais il y a 25 ou 30% ou 50 qui partent à la succession...
Il y a l'abattement pour les enfants de 100 000 euros sur la valeur, mais ouais, je vous dis, il y a 500 000 euros de patrimoine par enfant, deux héritiers,
vite, hein,
on enlève 100 000 euros, il reste 400 000 euros à fiscaliser, donc il y a les droits de succession qui sont dessus, c'est pourcentage par rapport à des tranches.
Combien de pourcentage?
Ça va dépendre, c'est ceux des montants en fait, des tranches, donc 0,8, il y a 0 à 8 000, c'est 0, j'ai plus les chiffres en tête, mais après ça peut passer 50 000 euros, ça commence à monter.
Quand on arrive à 400 000 par exemple, parce que j'ai une maison à 500, je meurs.
Alors je vous calculerai, je n'ai pas de tête le montant exact.
Il y a deux chiffres?
Oui.
Oui, c'est bien ce que j'avais cru comprendre aussi.
Oui, il y a deux chiffres.
Alors j'imagine certains auditeurs qui se disent, bon, ils sont bien mignons là, ils sont en train de parler de centaines de milliers d'euros.
Non, ça va vite, hein. Mais une maison et un pas de porte et ça y est.
Stéphane, c'est tout à fait ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et quand on est chef d'entreprise, une entreprise peut très bien ne rien valoir parce qu'elle ne vaut rien à un certain moment. Et il y a d'un seul coup, d'un seul, en quelques tours de j'ai envie de dire d'épisodes, hein, de la vie d'une entreprise, ce qui ne valait rien peut valoir beaucoup, inversement aussi, ça va dans le sens inverse. Donc il faut se préparer et surtout penser à ses héritiers parce que on peut les mettre dans des situations pas confortables.
Et pour compléter également, situation de décès, un héritier, un chef d'entreprise qui a des associés, s'il décède, ce sont ses héritiers qui vont rentrer dans l'entreprise. Peut-être que des fois, ils n'ont pas envie d'y rentrer.
Ah oui, puis alors là,
et peut-être que l'associé ne va pas vouloir aussi que la belle famille rentre derrière.
Là, c'est encore
d'autres choses derrière. Et ça s'étudie, ça se permet de se protéger là-dessus également. L'entreprise
donc,
peut se protéger
vous,
par rapport
vous
à
vous positionnez aussi dans ce domaine du conseil, à votre niveau, au niveau... Donc ça fait quand même un joli palmarès de sujets à aborder quand on est chef d'entreprise avec un conseiller d'assurance. Mieux vaut dans ces cas-là, on parlait en effet avec un conseiller d'assurance qui maîtrise bien ce domaine-là, qui n'est pas là, ça n'a rien à voir avec de l'assurance particulière, je vais dire plus classique, parce qu'il y a des retombées, il y a qui peuvent avoir des gros chiffres derrière, ou des grands ennuis derrière. Et je me répète, hein, mais messieurs, les artisans que j'aime et les chefs d'entreprise de TPE et petites PME, surtout, allez rencontrer des conseils.
Alors Romain Rousseau du groupe AXA, en fait, hein, dites-nous, dans le département actuellement, vous avez beaucoup de gens, vous avez un panier, un fichier client assez conséquent, vous avez un regard sur le département, l'activité économique du département ?
Alors, en regard au niveau général sur l'activité, oui. Moi, j'ai, du coup, je vois par rapport à mes clients. Par rapport à mes clients, je vois, du coup, comment l'activité se passe. En général, ça se passe plutôt bien.
En 2023, l'économie en Dordogne, comment elle va actuellement ? Les sociétés, les entrepreneurs, comment ils vont actuellement ?
Bon, les échos que j'ai, ça va plutôt bien pour l'instant. Ils attendent de voir un peu la situation. Alors, ça dépend après de chaque typologie.
Il y avait une grande anxiété il y a un an.
Ouais. Ça dépend aussi de la typologie des entreprises.
Oui.
Je sais que sur la partie restauration, c'est un peu plus délicat. Mmh. Tout ce qui va être l'artisanat, le bâtiment, ça tient encore. Pour l'instant, à
alors,
voir.
Alors, il travaille. Le bâtiment, ça travaille. Le social, ça travaille.
Moi, j'avoue, c'est plus un ressenti personnel. Mmh, savoir qu'est-ce qui va être l'impact second semestre, notamment sur les hausses des taux
immobiliers. Parce qu'il y a un an, ils n'investissaient pas, ils ne se protégeaient pas, très clairement. Et cette année, c'est bon, ils ont repris un peu de confiance.
Ouais, c'est ça.
Ils ont,
sur l'entreprise, ça va. Après, ça va être surtout sur la partie particulière. Ou justement avec ces impacts de taux immobilier, de tout ce qui est parti artisanal et lié à l'habitation derrière.
Les contraintes gouvernementales qui sont arrivées là, sur les maisons et ce genre de choses.
Ouais, également. Et même le crédit, hein, qui est beaucoup plus dur à avoir.
On aurait pu mettre ça dans les actus, parce qu'il y avait quand même une actu qui est ressortie, c'est que à aujourd'hui, en tant que Français, pour acquérir une maison, un appartement, si vous n'arrivez pas avec 90 000 euros dans les poches, il n'y a aucun banquier qui vous accepte un crédit.
Oui, c'est vrai.
C'est sorti.
Vrai, ça entraîne une baisse du marché immobilier, d'ailleurs.
Alors, c'est sorti, que j'ai envie de dire, comme une lettre à la poste, hein, comme une petite publicité, on n'y prête pas trop attention. Enfin, moi, c'est ma première maison que j'ai achetée. J'avais pas 90 000 euros. Et à aujourd'hui, je ne sais pas combien de Français, enfin jeunes Français, hein, en première acquisition, peuvent arriver à 90 000 euros. C'était 6 000 euros il y a quelques années.
Oui, mais tu l'as payé deux fois avec tes emprunts.
Oui, enfin 90 000 euros.
Oui, il faut arriver à les sortir.
On va m'expliquer comment un jeune couple de 25 ans, 30 ans, arrive avec 90 000 euros dans la poche. Là, je dis, on aurait pu mettre ça dans les actualités.
Dans la génération
Romain,
Y,
désolé,
tu regardes.
Je vous ai coupé.
C'est vrai, dans la génération Y, tu regardes, très très peu sont propriétaires.
Ils sont pas prêts de l'être.
Ils sont pas prêts de l'être. Hein. La génération X qui est la mienne, ça, c'est très moyen. Les baby-booms sont majoritairement propriétaires. Mais oui, il y a un problème d'accès à la propriété qui est assez conséquent.
Romain, il nous reste que 3 minutes. Hein. Le temps passe vite. On s'ennuie pas et on apprend aussi beaucoup de choses.
Mais comment on vous trouve ?
Moi, mais du coup, je travaille à domicile, je me déplace chez les clients, j'ai un petit bureau d'accueil à Créa-Vallée Sud, à Notre-Dame-de-Sanignac. Ouais. Et après, voilà, je me déplace en rendez-vous clientèle, donc je fais cet audit complet par rapport à tous les éléments qu'on a abordés. Donc,
c'est Romain Rousseau.
Romain Rousseau, agent AXA, exactement. Prévoyance et patrimoine.
Donc on demande à Google, en fait, il y a une page Facebook.
Google, la page Facebook, vous tapez Romain Rousseau AXA.
Il y a une page LinkedIn.
Exactement. J'ai connu un Romain Rousseau, moi, qui travaillait à Périgord Développement.
Hein, exactement, c'est ça, c'était mon activité avant.
Ah, c'était vous
C'était moi.
Ah, c'était vous. Donc, Romain Rousseau, qui est connu de beaucoup de chefs d'entreprise, parce qu'il a exercé à Périgord Développement. C'est très connu quand on est chef d'entreprise. C'est un accompagnement de qualité qu'on a en Dordogne. Ouais. Et vous avez fait vos premières armes, vos longues premières armes dans cette institution. Bravo en tout cas. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Romain Rousseau ?
Oui. Qu'est-ce qui vous attend dans ces mois, dans ces années qui viennent ?
Ah, de l'activité, continuer à développer l'agence. Comme Patrice disait, j'ai passé 10 ans moi, à Périgord Développement, où j'accompagnais des entrepreneurs qui viennent s'installer en Dordogne. Envie de passer le cap. J'ai lancé mon agence il y a 2 ans. Un peu plus de 2 ans, ça se développe bien. Donc l'idée est de continuer à structurer, à accompagner les clients dans la durée. Du coup, qu'on tisse presque des relations partenariales.
Bah écoutez, Romain, merci. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que les chefs d'entreprise prennent conscience de tout ce qu'on vient d'évoquer pendant cette émission et qu'ils n'hésitent surtout pas à aller chercher du conseil, parce que Dieu sait si c'est important pour eux, pour leur vie, celle de leur famille. Et merci encore. Et là, on va rendre l'antenne.
Voilà, c'était Patrice et Stéphane sur RLP Business numéro 16, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. N'oubliez pas de liker le podcast, mettez un commentaire, contactez-nous si vous le voulez, dites-nous ce que vous voulez entendre, présentez-vous, vous avez des choses à dire, et puis sinon, à la semaine prochaine, Patrice, au revoir.
Bien sûr, au revoir.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait.
RLP
Radio Libre en Périgord.